Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Méditation, elle n'est pas facile, je préfère quand même vous avertir. Elle est facile à comprendre, mais je veux dire qu'elle traite d'un sujet quand même douloureux. Douloureux par le fait que c'est aussi ce qui peut arriver dans les églises. Ce n'est pas que parfois dans d'autres cercles de la société, mais ça arrive aussi dans les églises. Et j'aimerais que nous puissions être avertis. Parce que vous savez qu'un homme averti en vaut deux. Mais savoir les choses, c'est une chose. Mais vraiment, ensuite les appliquer, les retenir, s'en souvenir au moment où il faut s'en souvenir, c'est peut-être pas aussi simple. Voilà. Alors, premier texte, c'est un message tout simplement à l'adresse ou à l'usage, je précise, à l'usage des chrétiens soucieux de maintenir l'esprit de vérité par l'amour de la vérité que Dieu nous a donné dans un monde d'équivoque et de confusion. Et vous allez voir à quoi nous allons arriver, puisque le sujet que nous allons traiter, c'est un mot un peu particulier, il est dans la Bible, et nous allons l'exprimer, nous allons le définir, c'est le mot impie. Ah oui. Alors, ça c'est quelque chose dont on n'a pas forcément l'habitude peut-être de prêcher, mais j'ai eu à cœur d'aborder ce sujet. Qu'est-ce qu'un impie? Et que sont les impies? La Bible en parle. Alors, première lecture. Nous allons la faire dans 1 Jean, chapitre 2. Assurément, c'est un sujet. Mais en parlant de cette manière, je vais donner aussi le côté, finalement, de ce que nous devons être. Non seulement de ce que nous devons faire pour nous en prémunir, pour avoir le discernement, la perspicacité spirituelle, mais l'Église doit pouvoir aussi être en état et en mesure d'avoir des anticorps, des antitoxines, on en parle, la grippe. C'est la parole de Dieu, c'est véritablement un antidote puissant dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors je vous ai dit donc d'abord 1 Jean chapitre 2 verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists, par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin que soit manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Pour nous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Et nous allons compléter ce texte, si vous voulez bien suivre, dans Jude. Alors, lui, il dit des choses. Vous l'avez lu. Vous avez lu les nombreux chapitres du livre des Juges. De Jude. Il y a un Jude, deux Jude, trois Jude. Voilà. Jude. Alors là, évidemment, je suis obligé de me rétracter parce que c'est par verset seulement. Le verset 12 jusqu'au verset 19. Écoutez bien. Voilà comment Jude parle. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair, se repaissant en eux-mêmes. J'entends des pages tournées, est-ce qu'il y aura un problème? Jude, pas juge, Jude. D'accord. Alors je reprends. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés. Des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est ainsi pour eux qu'Énoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont professé contre lui les pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leurs sœurs, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, nous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse ce matin. À travers la méditation que nous allons maintenant entreprendre. Il y a un mot dans la Bible qui revient aussi fréquemment, c'est le mot vanité. Vanité a naturellement, forcément un sens, et ce mot vanité exprime justement et certainement le mieux ce que sont les impies et leurs œuvres. Les impies et leurs œuvres, c'est-à-dire du vent. Du vent. Vous savez ce que c'est que le vent ? Il vient, il passe, il s'en va. Alors il y a un bon vent, hein, c'est celui du Saint-Esprit. Mais il y a aussi la vanité de l'humanité, la vanité des hommes, cet orgueil de la vie, cet orgueil des choses, tout simplement du vent. On le sait pertinemment, c'est que le vent entraîne avec lui ou après lui une cohorte de dévastation. Je pèse mes mots. Alors il y a des petits vents, mais il y a des grands vents. Et on le voit encore. Il y avait encore hier soir des images étonnantes, enfin terribles, dans le sud de la France. Et puis ce soir, on va voir celles qui sont arrivées chez nous. Mais c'est terrible parce que les pauvres gens, ils perdent tout. Et puis voilà, ça... Il n'y a rien à faire contre le vent, parce qu'avec le vent, il y a la pluie, il y a les eaux, les inondations, des torrents de boue, enfin, c'est une dévastation. Je pèse bien le mot. Cela amène la misère aussi. Misère psychologique, morale, et puis misère comme nous la connaissons. Cela provoque de grands dégâts et des bouleversements, parfois qu'on a du mal à s'imaginer quand on est en dehors du vent et en dehors de la tempête, de la tornade. Mais je voudrais dire quelque chose qui est positif, parce que nous allons le placer maintenant sur le plan de l'Église et spirituelle, c'est que malgré cette vanité dans laquelle le monde gît, derrière peut-être toutes ces conséquences des vents violents, de tous ces bouleversements qui peuvent arriver dans notre vie personnelle, mais aussi pour notre foi, l'Église également, c'est que la nature, ainsi éprouvée, eh bien, va reprendre ses droits à un moment ou à un autre. Elle va reprendre ses droits et elle va s'enraciner d'autant plus solidement par la suite. L'épreuve, qu'est-ce que c'est ? Et l'épreuve, nous avons souvent le pensée de dire, eh bien, l'épreuve, c'est quand je n'ai plus de travail, c'est parce que j'ai des problèmes familiaux, conjugaux, mes enfants, l'argent, la santé, ce sont des afflictions et des épreuves. Mais je crois qu'il y a aussi des maux qui frappent le peuple de Dieu, des maux qui surviennent comme cela, et qui font que si véritablement le peuple de Dieu avertit, prenant dans la foi, se confiant dans le Seigneur, devant ces vents de fausses doctrines, devant ces gens qui viennent, qui passent, vent et vanité, eh bien l'Église, ainsi exposée, va produire des anticorps. Va revenir à la parole, va prier le Seigneur, va demander d'autant plus pour tenir dans la tempête et bien d'être rempli du Saint-Esprit de Dieu et de l'amour de Dieu. Parce que, pas l'oublier, on n'a pas réglé nos comptes. alors à ce moment-là, l'Église va être encore plus forte. Elle aura été épurée, elle aura été exercée, elle aura été heurtée, frappée, mais l'Église en sortira victorieuse. Envers et contre tout. Contre vents et marées, dit-on. C'est comme ça que ça se passe dans la nature. Hein, on le voit après les sinistres, après les incendies, il paraît que la végétation, ça reprend et c'est encore plus vigoureux. Et ça fait la sélection. C'est-à-dire que toutes les mauvaises espèces, les ronces, etc., ça va disparaître. Mais la véritable forêt en elle-même va repousser. Mais elle sera plus forte qu'avant. Il y a même des arbres, j'écoutais l'autre jour un commentaire, un reportage, qui ensuite eh bien, vont développer des facultés contre le feu. C'est curieux, hein ? Alors on va, si vous voulez, simplement dire quelques mots sur les caractéristiques et l'identification des impies. Qu'est-ce qu'un impie ? Alors c'est vrai que on est tous venus d'une religion où on nous a parlé des impies. Hein, moi, autant que je puisse m'en souvenir. Mais il ne faut peut-être pas le chercher de ce côté-là, parce que quand j'ai regardé le dictionnaire, ce sont des outrages faits à la religion. Ben, moi, je pense que ce sont des outrages faits au Seigneur, à Dieu, nous l'avons lu, et faits également aux principes et aux vertus divines, à ce que Dieu nous a donné. Petite nuance. Mais c'était facile de l'écrire ainsi, puisque on sait que finalement, dans notre monde, le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Alors, évidemment, on peut comprendre. La Bible nous dit, et particulièrement dans le texte que nous avons lu, Jude, cette parole de Dieu nous dit qu'ils sont faciles à reconnaître, mais faut-il avoir quand même quelques outils, quelques éléments, des yeux exercés. D'abord, ils se font reconnaître par l'importance qu'ils se donnent. Vous connaissez l'histoire de Simon le magicien. Il nous est dit qu'il se donnait de l'importance, parce qu'il avait reçu des dons. Mais il fallait vérifier de quelle nature. Ça s'est vu, et ça s'est vérifié. C'était un homme qui était considéré, il détenait la puissance qui s'appelle la Grande. Alors tout le monde, naturellement, se pâmait en disant « Ah, c'est un homme extraordinaire, notre Simon, là, de Samarie. » Alors, d'abord, l'importance qu'il se donne, ce sont des gens qui ont une prestance. Et on les reconnaît également parce qu'ils éprouvent le besoin d'agir. Ils éprouvent toujours le besoin de parler, même quand on leur demande rien. D'intervenir, d'être présent sur toutes les situations, sur tous les terrains opérationnels, on pourrait dire. Ils sont partout à la fois, présents partout et en tout. À la fois dans les choses, dans le sens et dans le contresens. Souvent dans le contresens, et ça se confirme souvent. Et le problème, c'est que dans leur personne, tout semble de la consécration. De la consécration. Ils sont là, toujours là. Ils ne seront certainement pas autre part. Ça semble comme cela. Mais leur mobile, parce que Dieu regarde au cœur et non pas ce qui frappe les yeux. Et ça, il faut que nous s'en souvenions, que leur mobile, précisément dans tout ce que nous avons décelé un petit peu, c'est de mieux masquer leur vanité, qu'ils ne sont que du vent. Alors pour cacher le vent, eh bien, on essaie de mettre toutes sortes de choses autour pour que personne ne s'aperçoive que c'est du vent, que c'est de la vanité. Mais cela traduit, honnêtement, l'absence de réelle spiritualité. Et ce, je tiens à le marquer. Il y a l'apparence. Il y a le goût, il y a la couleur, enfin je ne vais pas en dire plus parce que je ferai de la publicité, mais hein, une fameuse publicité que vous avez convenue pour un certain... Bon, peu importe, hein, mais toujours est-il qu'il manque la véritable, la spiritualité, absence réelle de spiritualité. Ce qui les dévoile aux yeux du véritable peuple de Dieu, c'est leur ignorance. Ils projettent finalement... Pour celui qui ne serait pas averti, ils ont l'apparence d'avoir la connaissance, connaissance de Dieu, connaissance de l'Écriture, connaissance de la vie de l'Esprit, connaissance de ceci, connaissance de cela, ils connaissent tout. Mais ce qui véritablement les distingue, c'est qu'ils ne savent rien. Ils ne savent rien, et à plusieurs titres, Quand nous lisons Tite, je lis simplement le passage, où je le rappelle, dans Tite, il est dit ceci à un moment donné, en parlant justement de ce genre d'individus, il est dit « ils font profession de connaître Dieu ». Alors comment peut-on découvrir le mot « profession » C'est-à-dire soit parce qu'ils ont confessé Dieu, ou alors véritablement c'est leur profession au sens où ils exercent une profession pour le service de Dieu. Alors ça peut être tous ceux qui ont un titre et et des fonctions. Ils font profession, vous le comprendrez comme vous voudrez, mais ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. C'est pas les mots, c'est pas l'élocution, c'est pas la rhétorique, c'est pas ceci et cela, etc., etc. Parce que c'est souvent empilé avec même quelquefois des diplômes, mais c'est pas ça. Il est bien dit, ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Voilà. Ça, c'est terrible. C'est Jude qui écrit ça dans les premiers jours de l'Église primitive. Et je crois que, permettez-moi de dire, mais si ça l'était au premier jour, mais comment pouvons-nous penser que ça n'existerait plus encore aujourd'hui? Alors, ils ignorent. Et on va voir ce qu'ils ignorent. Et en sachant, l'objet de leur ignorance, vous allez voir que c'est tout à fait à l'opposé de la véritable foi et de la grâce de Dieu. La première chose qu'ils ignorent, c'est l'amour. Ouais. Ils ignorent l'amour. Et si nous reprenons les textes simplement, au chapitre 12, première partie du chapitre 12, « Ce sont des écueils dans vos agapes, faisons impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. » Donc là, on voit très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. N'aimant pas les autres, à l'exception d'eux-mêmes. Et la vie en société et la vie en église, c'est une vie communautaire, ils ne sont pas là pour le Seigneur, ils ne sont pas là pour les autres, ils sont là pour eux-mêmes. Et ça, c'est grave. Et on comprend que, n'aimant pas le Seigneur, l'injonction d'aimer, va certainement manquer d'application. Puis n'aimant pas les autres, alors automatiquement, ça fait des histoires, des disputes et des querelles. Parce que c'est pas possible. Et vous savez ce que dit Jean. Pourquoi dis-tu que tu aimes Dieu alors que tu es ton frère? Donc, ils ignorent l'amour. Le texte que nous avons devant les yeux, et ce verset, est cadré sur les repas fraternels. Ce que nous appelons communément les agapes. Moi, je trouve que les agapes, c'est formidable, mes frères et sœurs. C'est bien. Parce qu'on se retrouve ensemble, on peut parler ensemble. Et je crois qu'on est d'abord une famille, et une famille se caractérise aussi à travers des repas. On n'en aurait pas tous les jours, hein. Surtout pour ceux qui font la cuisine. Mais bon, toujours est-il que c'est bien de se retrouver. Alors, il y a toujours un juste milieu, un juste équilibre dans les agapes fraternelles. C'est pour ça que je vous disais, on n'en fait pas tous les jours, mais on est heureux de se retrouver ensemble. Il y a 15 jours, on s'est retrouvés aussi autour d'une table, c'était formidable. C'était très fort. Et on aime les frères et les sœurs. Et c'est bien de se retrouver comme ça. Alors, dans l'Église primitive, il y avait des agapes. Et le texte souligne justement ce caractère. Par-delà le cultuel, le fraternel. Et nous voyons qu'il provoque, ces gens-là, dans les agapes fraternelles, des troubles dans les réunions qui rassemble les enfants de Dieu, et Jude nous dit, ce sont des écueils. Un écueil, il y en a plein là, ici, hein, autour de nous, des rochers qui affleurent, et on ne sait pas tellement où ils se trouvent. Hein. Alors, quand on se heurte, ça fait mal. Ils sont comparés, dit un autre commentateur, dans ces agapes fraternelles, à une tache sur une belle nappe. Catastrophe. Vous avez mis une belle nappe, mesdames, elle est blanche. Et d'un seul coup, du coq au vin, qui est passé de la marmite sur la table. Enfin, il n'a pas trop la capacité de courir, mais toujours est-il qu'il a laissé sa marque, hein, quoi qu'il en soit. Alors, c'est encore un petit peu l'image. Alors, c'est un peu cette image de tache, écueil, de choses qui sont navrantes. On se dit, oh, c'est dommage, c'est dommage. Au lieu de l'amour, ces impies servent au menu de la communion la critique, le ressentiment, les plaintes, les amertumes qui les animent. Ils ne peuvent pas faire autre chose, parce que si ton cœur est rempli d'amour et de bienveillance, mais tu vas donner la bienveillance, tu vas donner de l'amour, mais si ton cœur est rempli de ressentiment, d'aigreur, qu'il y a des choses qui sont difficiles, même avec du bicarbonate de soude, alors à ce moment-là, eh bien, ça va ressortir tôt ou tard. Et ils sont contagieux. Parce qu'il y a celui qui parle et qui dit des mauvaises choses, et il y a celui qui entend, et s'il n'est pas averti, et s'il n'est pas tout à fait au clair, eh bien, il va tomber dans le panneau. Ça, c'est un principe. Mais on a besoin vraiment que l'Église soit une Église dans la paix, une Église dans l'unité, une Église qui soit sainte et une Église qui soit saine. C'est important. Parce que le Seigneur ne fera jamais rien. Ça, je peux vous le dire. Le Seigneur ne fera jamais rien s'il y a l'absence de toutes ces choses. On est ensemble. On aime le Seigneur, on s'aime les uns les autres et on travaille ensemble. Et le Seigneur va bénir. Moi, j'en suis convaincu. Il n'y aura pas d'autres conditions. Notre frère Monsieur Olivier nous l'a rappelé au jeûne et prière l'autre jour. Hein. Il ne savait pas du tout. Hein. Ni ce qui avait été dit le matin, ni ce que je dis aujourd'hui. Parce que je ne lui téléphone pas pour dire je vais prêcher comme ça. Hein. Mais vraiment, je crois qu'il y avait la pensée du Saint-Esprit. Il a insisté particulièrement pour que l'Église de primitive était en paix et Dieu faisait des signes et des miracles et toutes sortes de choses. Deuxième chose que les impies ignorent, c'est la véritable sagesse. L'amour, la véritable sagesse. Dans notre suite du verset 12, il est dit ceci, « Ce sont des nuées sans eau, poussées par des vents, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, des rats déracinés. Ce sont des nuées sans eau, poussées par le vent. » C'est-à-dire des vents froids, dépourvus de sentiments. Et puis en même temps, c'est froid glacial, mais c'est aussi brûlant. Il y a les deux, parce qu'ils enflamment par une apparence de sagesse ou de prétendu savoir, de pseudo-savoir, puisé à même de leur entendement stérile et humain. Et il y a des gens qui sont très très forts pour vous sortir des versets bibliques, des histoires bibliques, etc., une connaissance théologique et tout ce que vous voulez, etc., mais il n'y a pas la vie. C'est sec. Et ça brûle. Et derrière se grèvent toutes sortes de doctrines. Parce qu'à partir de ce moment-là, ça s'en va dans tous les sens. Et quelquefois, ils en font des doctrines. Malheureusement, on le voit dans notre monde, dans notre chrétienté historique. On voit tout ce que ça peut donner, mais il faut faire attention que nous, on ne fasse pas pareil. Il faut faire attention à cela. Alors, ils sont froids d'un côté, et puis d'un autre côté, ils sont brûlants. Parce que finalement, leurs ressources, ou leurs sources à eux, c'est eux-mêmes. Leur référence, leur mesure, leur étalon, en quelque sorte. Mais ce n'est pas le Seigneur, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est eux-mêmes. Je sais. Enfin, ce qu'ils ne savent pas, enfin, c'est qu'ils ne savent pas, de toute façon. Ils l'ignorent. Parce que tout est pétri de cette supériorité, de cette suffisance, de cet orgueil. Écoutez, on en a une démonstration de la sagesse des impies, de la sagesse de ces gens qui se croient ce qu'ils ne sont pas, et de la manière dont les choses sont traitées. Écoutez bien, on va regarder simplement dans... je l'ai cité la semaine dernière d'ailleurs ce texte, mais parfois il est bon de revenir à des choses. Et il dit, mais lequel d'entre vous est sage et intelligent ? Vous vous souvenez, on en a parlé, hein ? Mais qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite de la douceur et de la sagesse. Douceur, sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ben alors n'allez pas vous glorifier et n'allez pas dire, en tous les cas, que vous êtes dans la vérité parce que vous mentez contre la vérité et vous vous illusionnez vous-même. Cette sagesse, elle nous est dit, elle n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Du désordre. Mais ça se voit. On n'a pas besoin de faire venir un expert pour dire, eh bien voilà, il y a ceci, cela, on ne comprend pas. Mais ça se voit. Le désordre, c'est quelque chose qui est perturbant, c'est quelque chose qui est navrant, c'est quelque chose qui est attristant. Et la vie ne peut pas se fonctionner. Elle ne peut pas s'épanouir, elle ne peut pas se développer. Leurs idées à ces impies, et, comme on l'a dit, est comme le vent. Ça s'en va. Peut-être qu'on pourrait dire girouette. Vous savez, Moi, j'ai une immense girouette devant chez moi, là, ça. C'est une grue qui fait au moins 30 mètres de haut. Alors, ils ne l'ont pas bloquée, naturellement, vous savez pourquoi. Et elle tourne comme ça. Voilà, c'est curieux. Hein. On la voit tourner. C'est curieux, hein. Ouais, mais ils n'ont pas mis de coque au-dessus. Hein. Ah, peut-être que je leur suggère. Mais les girouettes, ça s'en va dans un sens ou dans un autre. Ce sont des girouettes. Voilà. Et leurs idées, loin de satisfaire l'âme et l'esprit, parce que c'est là, on est pourquoi aujourd'hui ? On est pour véritablement, eh bien, réconforter, nourrir nos âmes et nos esprits. Alors, leurs idées ne font que dessécher comme le vent. Et les gens, eh ben, ils se disent, c'est ça la vie chrétienne ? Ce n'est que ça la vie chrétienne ? Et on voit des chrétiens, des églises quelquefois, qui sont en mauvaise santé. Hein. Vraiment. Plus de souffle, plus d'allant, plus de, comme cela nous a été rappelé hier, hein, plus d'enthousiasme, alors que c'est tout le contraire. Hein. On est heureux d'être chrétien ou pas, hein, parce que je prends les inscriptions. Hein. Mais oui, on est heureux d'être chrétien. Il y a des problèmes, il y a des difficultés, on en a quelquefois par-dessus la tête. Mais on a le Seigneur, c'est ça ce qui fait la différence. Et ça, c'est merveilleux, on a le plus grand de tous les trésors. C'est vrai ? Donc, ils ignorent l'amour, ils ignorent la sagesse, et ils ignorent ce que veut dire le mot bénédiction. Puisque finalement, ils sont dans l'autre côté, malédiction. Pour eux-mêmes, sans le savoir, mais aussi pour les autres. Alors ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas savoir ce que veut dire le mot bénédiction. Dans la troisième partie du verset 12, alors, donc ce sont des nuées sans eau, nous l'avons vu, poussées par des ans, des arbres d'automne, sans fruits, deux fois morts et déracinés. Arbres d'automne, on y arrive. Là, ils ont été secoués ces derniers jours, hein. Enfin cette nuit en tous les cas. Là, ça tombe, hein. Il n'y a pas que les feuilles d'impôt qui tombent, hein. Et on va pas les ramasser, les feuilles d'impôt, elles viennent toutes seules. Alors, arbre d'automne, la communion fraternelle, j'insiste, est une richesse inestimable. Vous connaissez ce que dit le psaume 133, qu'il est beau de voir des frères rassemblés ensemble, hein, parce que c'est une huile qui descend. Et voilà, c'est formidable. Alors là, c'est bien. Moi, je dis merci Seigneur parce que tu as donné quelque chose de formidable. C'est une bénédiction. Mais ces individus irrégénérés désillusionnent ceux qui s'en approchent et ceux qui les écoutent. Au bout d'un certain temps, on se dit « Depuis longtemps, je sentais quelque chose qui n'allait pas chez un tel ou une telle. » On n'a pas toujours forcément le stéthoscope pour prendre le... Hein, le cœur et puis la tension et tout le reste, hein, c'est vrai. Mais on se dit, ah, il y a quelque chose. Et quand il y a vraiment quelque chose de probant chez eux, on se dit, mais on s'en était aperçu, on ne voulait rien dire naturellement. Mais on s'était aperçu qu'il y avait quelque chose qui clochait. Voilà. Alors, c'est vrai que ce sont des gens qui vont désillusionner ceux qui, quelquefois, ont été enthousiasmés par leur bagout ou autre chose, et ceux qui les écoutent. C'est pourquoi Jude dira, mais arbre d'automne, pourquoi cette expression ? Parce qu'à l'automne, c'est la saison où les feuilles tombent et ne laissent que la vraie nature dépouiller des végétaux. On est à la fin septembre, bientôt. Je vous dis, dans 2 mois, vous verrez que les beaux arbres que nous avons autour de nous, mis à part les conifères, hein, mais vous verrez que on va voir des squelettes partout. Ah, c'est la Toussaint, c'est normal. Mais... dépouillé, parce qu'à un moment ou à un autre, de toute façon, la vraie nature, elle est dépouillée, hein, quoi qu'il en soit. Le vrai visage, on peut dire. Ce sont des feuilles desséchées, des feuilles racornies en l'absence de la vraie connaissance de Dieu, et en y regardant bien, les seuls fruits sont ceux de Galates, chapitre 5, verset 18. Et vous les connaissez ? Ah, on va y revenir. Je sais que c'est un texte qu'il ne faut pas oublier. Je vous ai parlé de Galates. Attention, hein, je vous ai bien dit le texte. 5:18, c'est pas 5:20 ou 21. C'est le contraire, là. Alors, Galates. On va regarder ça ensemble. Voilà. Ce qui est formidable, c'est que je mets toujours des petites des marque-pages et puis ils disparaissent avec le vent. Voilà, alors 5-18. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Et Paul dit évidentes. C'est pas la peine de chercher midi à 14h. La débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivronnerie, les excès de table et les choses semblables. Eh, j'accélère, hein. Eh oui, c'est tout ça. Et on en passe. Et c'est terrible. Arbre déraciné, en d'autres termes, sans communion avec Christ, parce que Christ est le cep. Et nous, nous sommes les sarments. Et qu'est-ce qu'il dit ? Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, vous porterez beaucoup de fruits. C'est ainsi que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Puis bien d'autres textes comme ça qui viennent se rajouter. Si vous demeurez en moi, je demeure en vous. Alors à ce moment-là, on restera éternellement des arbres féconds, productifs, avec des fruits savoureux. Et Jude poursuit, il dit, deux fois mort. Eh oui, pourquoi deux fois mort ? Parce qu'ils sont morts une première fois à cause de leur nature pécheresse humaine, comme chacun d'entre nous, bien sûr. Et la deuxième fois, parce que la parole qui leur a été annoncée ne leur a servi à rien. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. Nous sommes des privilégiés. Dieu nous a donné l'insigne privilège de connaître sa parole, d'être ses enfants, de nous nourrir de ce lait et de ces mets succulents. Et normalement, quand on nourrit un enfant ou un homme, c'est pour qu'il puisse entretenir son existence. Et non seulement entretenir son existence, mais si je prends un enfant ou un adolescent, c'est pour qu'il grandisse, pour qu'il arrive à une stature physique, et qui va naturellement, somme toute, développer tout le reste. Mais quand on entend la parole de Dieu, quand on l'entend et que nous sommes imperméables, ça glisse. Alors à ce moment-là, ça sert à quoi ? Ça nous sert à être encore plus responsables. J'entends, mais je n'en fais rien. On a cette formidable parabole, une des plus petites que Jésus nous donne, avec le fils mandaté d'aller travailler dans sa vigne. Mais bien sûr, papa, j'y cours, pas de problème. Il prend sa bicyclette, il va ailleurs. Enfin, bicyclette, façon de parler. Mais voilà, bien sûr, j'y vais. Et il n'y va pas. Et l'autre, allez, ton frère n'a pas voulu y aller, alors tu y vas. Oh non, certainement pas, je ne veux pas y aller. Et puis finalement, il retrouve au travail. Il y a quand même quelque chose. Vous savez, Jésus est très perspicace et puis il nous enseigne des choses très pertinentes. Naturellement, ça, on le sait tous. Alors, si ça ne sert à rien d'entendre la parole de Dieu, à la lire et puis tout le reste, à faire des études de théologie, à courir le monde pour essayer de connaître la vérité des vérités, la connaissance universelle, et alors, ça ne sert qu'à endurcir leur cœur et à devenir plus méchant qu'il ne l'était auparavant. Et malheureusement, je dois dire quelque chose que nous avons parfois constaté, pas toujours, heureusement, mais ceux qui ont connu le Seigneur et qui ont fait marche arrière, que l'on appelle, d'un mot que j'aime pas, rétrograde, on a vu des gens qui sont venus malades. Terrible. Terrible. Quatrième point qui caractérise les impies, absence d'amour, absence de sagesse, absence de signification de ce que veut dire la bénédiction bénie. Ils ignorent la véritable puissance de l'esprit, tout en s'imaginant être au-dessus, être véritablement en haut du panier quant à la vie spirituelle, forcément. Ils ignorent la véritable puissance de l'esprit. Au verset 13, première partie, « Ce sont des vagues furieuses de la mer » rejetant l'écume de leur impureté. Paul nous dit bien, dans 1 Corinthiens, au chapitre 2 et au verset 4, il dit ceci, « Et ma parole Il parle en tant que prédicateur apôtre, hein, manifestement son apostolat. Il dit « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de puissance et d'esprit pour que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Chez Paul, et comme chez tous les véritables enfants de Dieu, de l'esprit, il n'y a pas de mots creux et vaniteux, mais la présence de Dieu avec ses véritables enfants. Les impies peuvent être éloquents, très intelligents dans le discours, la rhétorique et tout ce que vous voudrez. Leur démagogie également, leur psychologie, et tout en apparence de l'Évangile. Ils se servent de l'Évangile pour laisser croire. Et pas en Dieu. Parce que ce qui les intéresse, on l'a vu, puisqu'ils sont dépourvus d'amour pour les autres, pour le Seigneur, c'est pour eux. Ouais. Ils se servent de l'Évangile, ils se servent de la Bible, ils se servent de tout ce qu'il peut y avoir de connaissances autour de la parole de Dieu. Mais je voudrais quand même vous dire que le diable, il a fait la même chose, hein. Quand il a pris Jésus dans le désert, et puis il lui a dit, mais dis donc, est-ce que, si tu es le Fils de Dieu, est-ce que Dieu aurait... Voilà. Parce qu'il est très fin. Hein. Et il a quelques siècles de théologie. Hein. Alors il se sert de l'Évangile, il l'utilise. Mais le résultat trahit le fond. C'est pour ça qu'il n'a pas été question dans Jude de fruits, mais d'œuvres. Alors les fruits sont mauvais, ça c'est sûr. Et quand on parle de fruits, nous voulons en parler des bons fruits à la gloire de Dieu. Et Jude appelle ça de l'écume. Vous voyez, les mots ont un sens. Hein. Des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leur impureté. Je dirais l'écume de leur orgueil. Parce qu'il y a... Ça, c'est le pivot, hein, c'est le socle, en quelque sorte. L'écume d'orgueil d'eux-mêmes, de leur titre... de leur fonction et de leur position. Alors vous savez où ça a amené l'Église historique avec ça. Hein. Moi je ne me présente pas au prochain conclave, hein, je tiens à vous le dire. Hein. Je vous rassure. Hein. Je vais me faire couper la tête là. Eh oui, mais ce sont des déviations monstrueuses tout ça. Eh oui. Alors bien sûr, si on fonctionne avec le titre, parce que je suis pasteur. Vous croyez que je suis quelqu'un de supérieur aux autres? Je suis comme les autres. Je tiens à vous le dire, je vous rassure. J'exerce une fonction, mais je l'exerce sous le regard de Dieu, m'y appliquant le mieux possible avec mes erreurs et mes défauts. J'en suis conscient aussi. Et c'est pas ma position qui doit changer quelque chose, naturellement. Avant tout, on est au service des autres, et au service du Seigneur, et au service des autres. Mais certains, être pasteur... Être intendant ou surintendant, ou ceci, ou cela, mais dit-on, mais c'est quand même un avènement. Moi, je serais content que je serais au moins président de la République, parce que je serais en haut, il y aura tout le monde en dessous, voilà. Je ne me ferais pas pousser les petites moustaches comme ça. Hein. Bon, je tiens à vous rassurer. Mais c'est vrai, mais quelle vanité, mais quel vin chez les hommes. Alors qu'on trouve ça chez les gens qui ne sont pas, qui connaissent pas le Seigneur. Bon, c'est comme ça. Mais qu'on le trouve au milieu du peuple de Dieu, je me dis, mais Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Terrible, hein? En tous les cas, une chose est sûre, c'est qu'il n'y a rien de spirituel en tout ça. Rien de spirituel, sinon l'ébullition. Ça fait, parce que la mousse, c'est une ébullition, c'est une émulsion en quelque sorte, vous savez, de l'agitation de la mer. Hein, c'est une émulsion. L'ébullition psychique, émotionnelle, vaniteuse, que produit l'impureté de leur cœur. Parce qu'ils ont oublié de considérer que c'est Dieu qui est au-dessus d'eux. Dieu est souverain et ce n'est pas eux qui sont souverains. Vous avez des individus comme ça hein, dans l'histoire du Nouveau Testament. Vous en avez un qui s'appelle Alexandre. Il avait un marteau, il tapait sur la tête de Paul. Vous en avez un autre qui s'appelait Diotrephe. C'est pareil. Hein. C'était quand même un drôle de personnage. Et puis il y en avait d'autres comme cela. Hein, dans l'Ancien Testament aussi. Donc, ils ignorent. Mais ils ignorent aussi la lumière et la vérité. Toujours verset 13. Il est dit ceci dans la deuxième partie, donc des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auquel l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. La parole de Judée est terrible, hein, faut bien le dire. Mais elle est à la dimension de, finalement, du problème qui doit être traité. Les chrétiens authentiques, dans un monde mensonger, dans un monde où il y a double visage et double langage, on le sait, hein, sont porteurs des vertus divines. Oui, nous les chrétiens, on est porteurs. Jésus ne s'est pas trompé quand il a dit « Vous êtes le sel et la lumière ». Mais notre position, elle est d'être dans ce monde. Et on le sait, et on connaît la prière de Jésus, hein, que vous savez, dans Jean chapitre 17. Et ces vertus divines, c'est notamment la vérité, la justice, l'amour, la bonté, la charité. Or, ces gens impies, sans ressemblance aucune avec Jésus, avec Christ, dont ils font profession de connaître ou de suivre. Alors, à ce moment-là, en raison de l'image contradictoire qu'ils véhiculent, sont comme des astres errants. Il y a au mois d'août la nuit des étoiles. Vous avez regardé, non? Ah, c'est beau, c'est tous les ans pareil. Vous regardez, il y a des étoiles filantes qui passent. Et quelquefois, c'est très impressionnant. Hein, ouais, c'est pas les avions à côté de l'aéroport de Nantes. Hein. Ne vous trompez pas, ça passe dans le ciel comme ça. C'est au mois d'août. Hein. On appelle ça la nuit des étoiles. Alors, Jude les appelle astres errants. Pourquoi les appelle-t-il astres errants? Parce que ils sont hors du chemin tracé. Vous savez que les astres, il y a une trajectoire. Hein. Et ça marche. Heureusement, parce qu'on aurait la tête en bas, hein, nous aussi. Parce que si ça bouge de l'autre côté, je peux vous dire qu'on va marcher de travers. Hein. Alors, ils sont sortis hors du chemin tracé. Ils éblouissent un instant en faisant de l'effet par l'éclat de leur apparence. C'est du vernis, c'est que de la dorure superficielle. Mais ils disparaissent, nous dit l'apôtre, aussitôt derrière un écran d'obscurité, d'où ils viennent et où ils vont. C'est-à-dire, ils vont vers la perdition. Ils viennent de la perdition, ils vont vers la perdition. Et là, un flash. Étoile filante, naturellement. Parce que l'obscur et le flou est leur nature. Nous sommes des enfants de lumière et nous portons la lumière. Eux, ils sont dans le flou et l'obscur. Et automatiquement, leur nature, eh bien, se révèle à un moment ou à un autre. Ils éclairent, ils disparaissent et c'est terminé. Alors que le chrétien, l'enfant de Dieu, si nous gardons sa parole, nous demeurons éternellement dans la lumière. Que de troubles, que de questions, que de malaises apportent-ils avec eux au milieu du peuple de Dieu? Et ça se vérifie. Et c'est, si je dis cela, c'est parce que le Saint-Esprit m'a conduit à le dire. Parce que nous avons besoin, dans les temps qui vont venir, nous avons besoin de prévenir l'Église. Mes frères et mes sœurs, je ne voudrais pas vous faire peur, mais ça ne va pas être facile. Il va falloir que nous réagissions avec vraiment dans l'Esprit du Seigneur, avec la grâce de Dieu, parce qu'on va en voir, on en a déjà vu, hein, mais on va en voir encore de différentes façons. Le diable a résolu de détruire son Église, d'une manière ou d'une autre, par toutes sortes d'infiltrations, toutes sortes de choses. Alors, il faut que nous soyons prévenus et que nous ayons les bases de réflexion et que nous voyons des choses qui ne vont pas, eh bien vous relisez Jude et puis bien d'autres textes et vous aurez les éléments en disant « Oui, c'est comme ça que les choses sont. Attention, soyons sur nos gardes. » Ça ne veut pas dire jouer à la police, etc., etc., mais il faut prier. Ce sont des gens allergiques à la vie de l'esprit, avant tout. Et nous voyons que derrière cette allergie à la vie de l'esprit, eh bien, ils font toutes sortes de choses en réaction à la vie de l'esprit qui se manifeste. Ils vont faire comme, mais ils ne sont pas d'accord. C'est pour ça qu'ils en arrivent même à se contredire les prédications inspirées, et quand je dis prédications inspirées, ça peut être des paroles de connaissance, ça peut être toutes sortes de choses. Ils s'opposent. À l'intérieur, ils ne diront pas, mais à l'intérieur, ils disent, c'est pas ça. Et ils luttent. Et vous savez qu'il y a un texte dans l'Ancien Testament qui est dit que celui qui mérite d'être repris et qui raidit le coup sera brisé promptement et sans remède. Seigneur, fais grâce que ça n'arrive pas. Parce que c'est terrible à ce moment-là. Ils se repaissent eux-mêmes, voilà l'expression qui est donnée par Jude, alors que la vie de l'Église est christocentrique, c'est-à-dire tout en Christ, tout pour Christ, tout vers Christ, les impies sont égocentristes. divisés en eux-mêmes, mais, je termine, le plus grave reste à venir parce qu'il provoque des divisions. Verset 16, il est dit ceci, « Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous de ces choses annoncées par avance, par les prophètes de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient que dans les derniers temps, il y aura des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. » D'abord, ce sont des gens qui murmurent. Du cœur et de la langue. Parce que quand c'est dans le cœur, ça va jusqu'à la langue. Jésus nous dit bien, et il nous le rappelle dans Matthieu chapitre 12, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Savoir si c'est doux ou amer. Donc, en parlant mal des uns des autres, ils ne traduisent que le fond naturel d'hommes irrégénérés par le Saint-Esprit. Si nous avions tendance, ça peut être une tendance naturelle, quelquefois des restes de notre vie passée, si nous avons tendance à la critique, tenons-nous devant le Seigneur et demandons-lui qu'il nous délivre de cela. Parce que on rend les autres malheureux, mais on se rend soi-même malheureux. C'est terrible. Ensuite, ils se plaignent de leur sort et marchent selon leur convoitise. Quand leur convoitise est contrariée, elle produit la frustration. Et combien d'hommes, de femmes sont frustrés dans notre temps ? Ça produit la frustration. Celle-ci va générer le mécontentement. De là, du mécontentement, ça va produire dans certains cas, de l'agressivité. De l'agressivité et de la violence, verbale ou physique, ça peut arriver. Et puis derrière va se nicher véritablement le fond, c'est-à-dire la méchanceté. Après, on est repris par celui qui inspire, celui qui en est l'inspirateur, c'est-à-dire le malin. Et là, on va vouloir faire du mal pour faire du mal. C'est terrible, faire du mal pour faire du mal. Parce que l'adversaire, lui, il engendre non le bien, mais le mal. Et quand il arrive à faire cela dans un couple, dans une famille, dans une église, dans un groupe d'hommes ou de femmes, je peux vous dire que mais il est content parce que c'est sa nature. Et il a trouvé naturellement des complices. Je voudrais donner une définition avant que nous terminions. Une définition de ce que veut dire se plaindre sans cesse. Se plaindre sans cesse, c'est s'efforcer de se justifier d'être mécontent et tenter de prouver autour de nous qu'on a de bonnes raisons d'être comme l'on est pour rejeter sur autrui la responsabilité de nos erreurs et de nos fautes et voire même d'en tenir Dieu pour responsable. C'est ça la définition. J'ai trouvé que c'est une perle. Ah oui, qu'est-ce que vous en pensez? C'est amen ou c'est... Vous voulez que je vous le relise? Oui? J'ai pas entendu de nom. Allez, on y va. Oui. Bon, on y va. Se plaindre sans cesse, c'est s'efforcer de se justifier d'être mécontent et tenter de prouver autour de nous qu'on a de bonnes raisons d'être comme l'on est pour rejeter sur autrui la responsabilité de nos erreurs et de nos fautes et voire même d'en tenir Dieu pour responsable. Ça va? Bon. Vous me ferez une disserte là-dessus pour dimanche prochain. Eh, ça sera intéressant, qu'est-ce que vous en pensez? Et encore, qui ont à la bouche des paroles hautaines, c'est-à-dire des paroles arrogantes. Tout ce qu'ils, finalement, disent ou prétendent, privé de la vie de l'esprit, ne peut être que religieux, moralisateur, légaliste, accusateur, même, finalement, utiliser le nom de Dieu dans leur discours. Parce que ça passe mieux. C'est sûr que ça donne un petit caractère de sainteté quand on y met Dieu dedans. Ou encore, qui admire les personnes par motif d'intérêt. La flatterie. Flatter les gens. Passer la main dans le dos. Vous connaissez ? Si l'on se croit soi-même la mesure de toute chose, si l'on pense que nous sommes la référence, cela conduit, finalement, à user de tous les moyens pour satisfaire désirs et besoins en se faisant remarquer, habilement manipuler ce que l'on veut avoir de son côté, manœuvrer, on appelle ça des manœuvriers, et attirer l'attention, mais sans jamais avouer les buts. Quand quelqu'un est mal famé ou quand quelqu'un est mal disposé pour faire un mauvais coup, il va pas vous dire qu'il va faire un mauvais coup. Il va vous entraîner pour que vous fassiez le mauvais coup. C'est même vous qui allez le faire le mauvais coup, et quand vous regarderez en disant « Ah, je me suis fait prendre », il sera même plus derrière. Il aura disparu. Et c'est vous qui serez puni. C'est vu, hein. Mais aussi, ce sont des moqueurs. La moquerie est une forme de dérision d'autrui malveillante. Ouais. Aspect physique, disgrâce, quelquefois, bon, toutes sortes de choses. Hein, on a compris ? Son but est inique dans la moquerie. Vous avez vu le livre des Proverbes, comment il charge les moqueurs ? Il y en a un, là, il y en a un paquet hein, de citations. Hein. Son fond est inique. Il est nuisible et il est intentionnel. Il ne faut pas dire que c'est fait comme ça par hasard. Hein. Les impies se moquent de Dieu et de sa parole et font la preuve de leur superficialité. C'est quelque chose d'artificiel en opposition à la spiritualité authentique. Et ce sont des êtres, selon le texte, des êtres charnels qui pourraient se traduire par animal, anima, âme, en latin. Animal, d'où cette phrase, n'ayant pas l'esprit. C'est ce que nous avons lu devant nous, de ce que nous avons dans les yeux. Personnage dont l'esprit en eux est mort. Il est paralysé et il est inexistant, dont le fruit spontané est la division, puisque nous l'avons vu. Et la division, eh ben c'est un cancer. C'est le cancer. On en parle beaucoup hein, de cette terrible maladie, ô combien douloureuse pour l'humanité. C'est un cancer du corps de Christ, lequel cancer se développe à la faveur d'individus au milieu des chrétiens, mais qui ne sont pas des nôtres. C'est pour ça que nous avons lu Jean. Ils sont au milieu de nous, mais ils ne sont pas les nôtres. Voilà. Et ils produisent, dans le développement de ces carcinomes, donc des cancers, ils provoquent des métastases. Ils ne vont pas rester tranquilles sur leur chaise. Hein. Le but, c'est d'être... Et là, quand c'est arrivé à ce stade, c'est très difficile. Grâce à Dieu, le Seigneur est capable de guérir. Voilà, j'en dis pas plus, le Seigneur est capable de guérir, mais faisons attention, mes frères et sœurs. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir regarder son frère et sa sœur à la loupe en disant « Ah, est-ce que ce sera un impie celui-là » Attention, hein, parce que... vous avez peut-être... Ouh là là, vous avez rien entendu ce matin. Hein. Parce que si vous voyez l'autre comme coupable, impie, etc., etc., alors revenez me voir, on essaiera de... D'accord. Voilà le diagnostic préventif de Jude. Et dans Romains, et je finis, hein, j'aurais pas. Vous êtes bien, vous avez vu le plancher, la tenue. Hein enfin, c'est bien comme ça. Alors, dans Jude, chapitre. Dans Romains, pardon, chapitre 16 et verset 17, il est simplement donné cette parole. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre vente, et par des paroles doucereuses et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Mes frères et sœurs, on va finir sur une note. Nous voulons être des enfants de Dieu, obéissant au Seigneur, nous laissant remplir de son esprit, et véritablement prendre ce qu'il y a de meilleur, et vivre notre foi sous son regard et pour sa gloire. Que Dieu nous bénisse ce matin.